Je vous propose de poursuivre notre parcours de l'Épître aux Colossiens. On a déjà eu deux interventions depuis fin août et nous allons continuer aujourd'hui avec, à partir du chapitre 1 et au verset 24. Je vous propose de lire ensemble Colossiens 1, 24 jusqu'au chapitre 2, verset 5 et on commence au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Il y a une semaine, je discutais dans mon lycée avec une élève qui est déléguée de sa classe. Et vous savez qu'en France, la relation entre les élèves et les professeurs est très formelle. Je peux me permettre de tutoyer les élèves, mais les élèves me vouvoient. Et voilà que, alors que je discutais sérieusement avec cette élève déléguée, un de ses camarades arrive derrière elle et lui appuie sur l'épaule pour faire le petit jeu qui consiste à dire « je t'appuie sur l'épaule, mais je me tiens de l'autre côté, tu te retournes, il n'y a personne et tu ne sais pas qui c'est qui t'appuie sur l'épaule ». Et cette élève se retourne vers son camarade Léonard, et le regarde dans les yeux et dit « Mais t'es vraiment un gamin, Léonard. » Et puis, moi, me disant que oui, en effet, cet élève est vraiment un gamin, je prends le petit autocollant qui était collé sur mon stylo que je tenais dans la main, et je le colle sur le t-shirt de Léonard. Et cet élève, délégué, qui parlait avec moi, se retourne vers moi, et du haut de ses 17 ans, me dit « Mais vous aussi, monsieur, vous êtes un gamin. » Elle a utilisé le vouvoiement, ça m'a choqué, et je me suis dit, bon, je le méritais peut-être. C'est pour ça que je vous propose d'étudier ensemble ce que Paul veut nous expliquer, comment devenir adulte dans notre foi. Je vous propose de commencer par le cœur de ce passage, à savoir l'objectif de Paul, nous expliquer comment devenir adulte. Regardez le verset 28, c'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Lindsay Adario. C'est une célébrité aux États-Unis puisque c'est sa nationalité. Et j'aimerais vous montrer que les apparences sont parfois trompeuses. Lindsay Adario fait un métier qui nous fait tous rêver et que nous aimerions tous faire. Elle est photographe. Photographe de guerre. Elle a couvert le conflit en Libye. Elle couvre le conflit en Syrie. Pendant 3 années, elle a suivi notamment des réfugiés syriens. Elle a été même récompensée d'un prix Pulitzer en 2009 et elle a aussi été gratifiée de 2 enlèvements sur le lieu des conflits par certains belligérants qui l'ont prise en otage. Et lors de ces 2 fois, elle a été libérée. Bref, c'est ce qu'on pourrait dire une personne qui est engagée et qui vit d'un métier à haut risque. En fait, lorsqu'on lui pose la question de quel est son métier, elle explique qu'elle n'est pas une photographe de guerre, mais qu'elle est une photojournaliste qui travaille principalement dans les zones de conflit. Alors, certains choisissent de photographier les perroquets, elle, c'est plutôt dans des milieux plus hostiles. Alors pour elle, la guerre, c'est un contexte, et ce n'est pas une fin en soi. Mais, et la grande question qui lui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'elle fait ce boulot? Et en fait, elle-même se pose cette question. Pourquoi est-ce que je risque ma vie? Pourquoi est-ce que je fais ce boulot? Et sa réponse, c'est de dire qu'elle a comme une responsabilité, un appel de témoigner des conséquences de la guerre. Et elle explique même que cela la rend heureuse parce que cela lui donne une raison d'être. Quelle était la raison d'être de Paul? Eh bien, Paul, dans ce passage, on voit qu'il est prêt à tout pour que les Colossiens deviennent adultes. Il est prêt à souffrir. Il est prêt à servir. Il est prêt à annoncer. Il est prêt à travailler. Et puis, à 3 reprises, y compris dans le chapitre 2, il explique qu'il combat pour que les Colossiens deviennent adultes. Et ce qui me frappe, c'est que dans ce passage, lorsqu'on s'intéresse juste aux mots, tout simplement, on voit qu'il y a un vocabulaire assez extrême. Paul explique qu'il veut annoncer pleinement la parole de Dieu. Il veut parler d'un mystère qui est caché de tout temps. Il veut faire connaître la glorieuse richesse, l'espérance de la gloire. Il parle de sa force qui agit puissamment en lui. Il veut que les Colossiens soient enrichis d'une pleine intelligence. Ils veulent qu'ils puissent découvrir tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et là, je me suis dit, mais est-ce que Paul ne serait pas américain? Il y a quelque chose qui est très frappant dans la culture aux États-Unis, c'est que lorsqu'on va dans une ville et que des amis nous invitent, ils nous disent « Ah, je vais t'emmener dans le meilleur restaurant de la ville, tu vas voir, il n'y a pas mieux. » Ou dans le meilleur glacier, etc. Et puis lorsqu'on est à Brooklyn, même le guide du routard nous dit « Il faut absolument aller manger dans ce restaurant au bord de la plage, c'est l'incontournable de New York. Tous les New-Yorkais y ont goûté. » Et comme vous le voyez, c'est marqué, donc le nom du restaurant c'est Nathan, et c'est marqué qu'il existe depuis 1916, qu'il est fameux, que c'est l'original, donc toutes sortes de vocabulaire qui sont là pour mettre en valeur la qualité de cette nourriture. Et puis arrivé sur place, on découvre que ce restaurant sert de bons hot dogs. Et là, on se dit, mais est-ce qu'on a fait tout ce chemin pour rien? C'est une exagération qui me fait dire que Paul était peut-être pas si américain que ça, mais plutôt lyonnais, puisque si on pense à la nourriture, Paul, ça sonne plutôt lyonnais. Et nous pourrions, nous lyonnais, en effet, mettre en valeur notre gastronomie, et c'est ce qui est de plus en plus fait, et pour de bonnes raisons. Et ça sonnerait bien juste. En fait, cet exemple pour dire que Paul, certes, utilise un vocabulaire qui est extraordinaire, il a des mots très forts, on sent un enthousiasme juste incroyable, mais parce que Paul a découvert quelque chose d'énorme et son cœur explose de le partager aux Colossiens. Et alors, c'est intéressant de noter la rupture avec le passage précédent. François, il y a 15 jours, a développé la réflexion sur les versets précédents. Et dans ce passage, on voit que Paul insiste sur le fait que Christ est la tête de l'Église, que Christ est le premier-né de toute la création, qui était avant même l'origine du monde. C'est un passage qui magnifie Christ de façon extraordinaire. Et puis, lorsqu'on arrive dans ce verset 24, tout d'un coup, Paul change de registre et parle de lui. Et on voit qu'à de nombreuses reprises, il fait référence à son expérience, son appel, son travail, son combat, etc. Il parle de lui. Et on a l'impression qu'il est en train de quitter ce terrain de l'adoration, de l'admiration de Christ pour parler de lui. D'où cette question, pourquoi Paul change de personne, de centre d'intérêt? Pourquoi est-ce que Paul prend à l'audace d'impliquer si fortement sa personne et son ministère dans ce passage et de s'exposer ainsi face aux Colossiens? Eh bien, pas facile de répondre parce que déjà, comme David l'avait proposé en introduction, si on regarde les différents voyages missionnaires que Paul a effectués avant d'écrire à l'église de Colosse, on voit que lors de son premier voyage, il n'est pas allé jusqu'à Colosse. Lors de son deuxième voyage, il n'est pas allé jusqu'à Colosse. Et lors de son troisième voyage, il est presque allé jusqu'à Colosse. Il est passé juste à côté à Laodicée. Par conséquent, Paul, ici, écrit à des personnes qui ne sont, qu'il n'a peut-être et même certainement jamais rencontrées. Des personnes qui n'ont jamais vu son visage. C'est ce qu'il dit au chapitre 2, j'ai pas la dia, mais au chapitre 2, il est très clair sur le fait qu'il écrit à tous ceux qui n'ont jamais vu son visage. Il s'adresse même à toute personne, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Ainsi, Paul n'écrit pas simplement à des amis de longue date qu'il a hâte de revoir, mais il écrit à tout être humain dont il souhaite, à qui il souhaite partager son message. On comprend donc que Paul est complètement désintéressé dans son message. Et s'il se met autant en avant, c'est pas parce qu'il espère retirer un bénéfice pour lui-même, mais c'est parce qu'il pense que son expérience peut servir aux Colossiens et aux personnes à qui il écrit. Il ne cherche pas à attendrir ses destinataires pour ensuite les préparer à encaisser des reproches. Il a un enjeu beaucoup plus sérieux en tête. Il sait que les Colossiens sont face à un problème, à des défis, qu'il y a des enseignements qui circulent parmi eux, qui les encouragent à se détourner de la foi, et il veut absolument leur montrer comment lui, Paul, demeure ferme malgré la persécution à laquelle il fait face, malgré les raisons qu'il aurait de baisser les bras et de s'éloigner de Christ. Paul ne plaide donc pas tant pour lui-même, mais pour Christ, le porteur, le cœur, le but de l'Évangile. Ça, c'est dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'un adulte? Dans le dictionnaire, un adulte, c'est quelqu'un qui est parvenu au terme de sa croissance. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus adolescent. Et adolescent, ça veut dire se développer et grandir. Autrement dit, si Paul avait dit aux Colossiens qu'ils étaient des adultes, ça veut dire qu'ils n'auraient plus besoin de se développer ou de grandir. Ce qui signifie que les Colossiens sont des adolescents. Et si on continue cette image, on en arrive à la conclusion qu'un chrétien, que tout chrétien, est en fait un adolescent. De la même manière que pour passer de l'enfance à l'âge adulte, et pour être qualifié pour rentrer dans la vie active, il faut une vie scolaire assez longue. De la même manière, pour devenir adulte, cela peut prendre du temps. Et Paul est enfin, en fait, en train d'expliquer aux Colossiens que pour devenir adulte, cela va peut-être prendre une vie entière. Et que être accepter Jésus-Christ, accepter de suivre Jésus-Christ, cela signifie qu'il y a un début et qu'il y a une suite dans laquelle il faut grandir, il faut se développer, apprendre à mieux connaître Christ et se comporter mieux comme Christ. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 4, 1, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons, et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. » Devenir adulte, c'est quoi? Eh bien, c'est poursuivre ce désir de grandir et poursuivre ce désir que Paul appelle dans Éphésiens 3, 19, ce désir d'être rempli de la plénitude de Christ. Et j'ai trouvé cette citation de John Piper qui me semble tout à fait pertinente et qui dit que toute perspective de la vie chrétienne qui ne promeut pas le désir et la poursuite de cette plénitude inexprimable est aussi défectueuse que la perspective qui consiste à dire qu'il suffit de passer par une crise ponctuelle de pleine consécration pour obtenir la plénitude. Je reformule. Dans ta vie, tu peux avoir à un moment donné, avoir découvert quelque chose de spécial de la part de Christ, avoir reçu un appel de sa part, ou tout simplement avoir découvert qu'il est vraiment vivant, qu'il est ressuscité, et l'avoir accepté comme ton sauveur. Et ça a été un temps fort dans ta vie. Ça a été un temps formidable. Ça a été le début de ta croissance avec Christ. Et ce que Paul nous explique ici, c'est qu'en fait, ce début, cette expérience que nous avons fait au départ, est appelée ensuite à se poursuivre tout au long de la vie, non pas forcément avec une intensité extraordinaire qui nous fait bondir du lit tous les matins, mais de manière continue, de telle sorte à ce qu'on s'approche toujours plus de la plénitude de Christ. Par quel mystère cela est-il possible? Comment Paul compte-t-il faire grandir les Colossiens? Ici, dans ce passage, le mot « mystère » apparaît à plusieurs reprises. Paul veut annoncer pleinement la parole de Dieu, qui est le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Et plus bas, il veut aussi faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment Paul compte-t-il faire grandir les Colossiens et leur faire découvrir ce mystère? On voit ici plein de verbes employés par Paul. Il veut leur annoncer pleinement la parole. Il veut les avertir. Il veut les instruire. Petite parenthèse, application pratique, quelle place est-ce que tu laisses à l'avertissement et à l'instruction dans ta vie? Je pense que le choix des responsables de proposer un parcours dans le livre des Colossiens, du premier verset jusqu'au dernier verset de cet épître, jusqu'en décembre, ça fait partie aussi de cette volonté de laisser tout simplement la parole nous instruire et nous avertir. Puisqu'on fait le choix de ne pas mettre un seul verset ou un seul mot des Colossiens de côté, et puis de voir ce que Paul a peut-être à nous apprendre 2000 ans après encore aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. Paul nous dit qu'il est même prêt à combattre pour que nous puissions être unis dans l'amour, pour que nous puissions être encouragés dans notre cœur, que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence. Mais en fait, tous les efforts que Paul propose sont au service de ceci, faire connaître le mystère de Dieu. Qu'est-ce que le mystère de Dieu ? Déjà, on a conscience que pour le connaître, il faut une pleine intelligence. Est-ce que ça veut dire que si je ne suis pas assez intelligent, je ne peux pas connaître ce mystère ? Le mystère, ça renvoie à plein de choses dans nos représentations. Et il y a beaucoup d'affaires mystérieuses. Ça a été repris notamment dans les polars, J'ai découvert cette bande dessinée, d'ailleurs, pour ceux qui aiment l'Alsace, sur le Haut-Königsbourg, mais celui-ci est plus connu. Le fait est qu'un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas forcément élucidé, où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Alors parfois, ça peut être aussi un faux mystère, ce qu'on appelle un mystère de polichinelle, c'est-à-dire que tout le monde est au courant et que c'est un secret que naïvement on dit qu'il n'est pas résolu. Cependant, dans le contexte dans lequel Paul utilise ce terme, ce mot mystère a un sens particulier. Dans l'Antiquité grecque, un mystère faisait référence à des pratiques religieuses auxquelles étaient conviées uniquement certaines personnes. Un peu l'équivalent de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de la franc-maçonnerie, dans laquelle on a le droit de participer que si on est coopté, parrainé par une autre personne qui est déjà membre. Ces mystères dans l'Antiquité sont connus, notamment à travers les fresques que l'on peut voir encore aujourd'hui à Pompéi et qui ont été découvertes il y a une centaine d'années en arrière. La Villa des Mystères contient notamment cette fresque qui fait référence au mystère de Dionysos, qui était un dieu païen, et c'était des fêtes qui étaient organisées en son honneur et qui rassemblaient les initiés à cette fête. Lorsque Paul parle donc d'un mystère, il fait donc référence dans la culture de l'époque à un secret qui est normalement réservé aux initiés. Mais si on regarde bien le texte, on découvre ici que ce mystère, il a une particularité, c'est qu'il était caché de tout temps et à toutes les générations, mais que désormais il est révélé. Et il explique même plus loin que ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Autrement dit, Paul utilise un terme qui est tout à fait compréhensible par ses auditeurs à l'époque et en transforme le sens. Le mystère auquel Paul fait référence est un mystère qui en fait n'en est plus un. C'est un mystère qui a été révélé, qui n'est plus un secret et qui est accessible à toute personne qui souhaite le connaître, puisque ce mystère, c'est en fait Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paul nous dit là qu'en fait, non seulement le mystère est révélé, mais puisqu'il est connu, il a la responsabilité de le partager. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a une dizaine de mystères qui sont évoqués. Par exemple, le mystère du royaume des cieux dans les paraboles, le mystère du salut en Jésus-Christ, le mystère de l'Église, corps de Christ, le mystère de l'Église, épouse de Christ, le mystère de l'enlèvement d'Église. Je pourrais multiplier la liste, mais celui qui nous intéresse ici, c'est ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi est-ce que c'est un mystère? Si on se pose sur ce verset, on voit que cette expression est en fait une proclamation extraordinaire. Puisque dans cette expression, on voit que Christ habite en nous. Et pourquoi cela est possible? Parce que Christ a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés et pour que, par son esprit, il puisse venir établir sa demeure en nous. Et c'est extraordinaire parce qu'à partir de là, à partir de cette habitation que Christ fait en nous, il nous donne une espérance, et une espérance de gloire. Une autre traduction propose l'idée que, de cette phrase, au lieu de « Christ en vous, l'espérance de la gloire », c'est l'idée de « le Messie en vous, l'espérance de la gloire ». Le Sauveur que les Juifs attendaient est arrivé, et il habite en vous. Et là où c'est très fort, c'est que grâce à toute notre espérance, tout ce que nous espérons repose sur Christ et sur le fait qu'il habite en nous. C'est la base, et je terminerai par là, de la puissance qui agit en nous. Paul nous dit qu'il travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en lui. Si Paul a l'espérance de devenir adulte, c'est qu'il est persuadé que Christ en lui œuvre et le fait grandir. Vous savez que le sommeil est important, mais est-ce que vous savez tout ce qui se passe pendant qu'on dort ? En fait, on ne récupère pas seulement de notre fatigue physique ou de notre fatigue nerveuse, mais un sommeil de qualité et de quantité suffisante correspond à la sécrétion d'une hormone de croissance. Alors, c'est valable surtout pour les plus jeunes, mais cette hormone de croissance, c'est pendant le sommeil qu'elle se répand dans le corps et qu'elle assure la croissance des enfants. Ainsi, cette hormone, en plus de la croissance, va permettre aussi la réparation des tissus, des cellules usées. Elle va sécréter aussi la prolactine, qui est une enzyme qui est nécessaire au système immunitaire. Autrement dit, le sommeil permet aussi de mémoriser plus fortement. Alors je doute que celui-ci soit vraiment très actif dans sa mémorisation. En tout cas, quand il va se réveiller, il sera plus à même de mémoriser ce qu'il apprend. Alors le sommeil est tellement important que figurez-vous que le 18 mars 2016, l'Institut national du sommeil et de la vigilance nous invite à la 16e journée du sommeil. C'est une grande fête, il faut apporter son oreiller, et vous allez voir, ça va être extraordinaire. Paul est dans une situation qui est assez proche du sommeil. Parce que Paul, certes, n'est jamais allé à Colosse, mais lorsqu'il écrit aux Colossiens, il est à Rome, il est en prison à Rome. Alors, il est plus proche d'une situation de liberté conditionnelle dans une résidence surveillée que dans une prison miteuse, même si on a peu de détails là-dessus. Mais Paul est dans une sorte de prison. Imaginez cet homme qui a consacré des années de sa vie à voyager dans tout le bassin méditerranéen pour annoncer l'Évangile, et le voilà coincé entre quatre murs, à ne pouvoir plus rien faire d'autre que de prendre sa plume, son papyrus et d'écrire des lettres aux églises qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle mettre un lion en cage. Paul est dans une situation proche du sommeil. Et pourtant, malgré cette impression d'impuissance, malgré cette impression de confinement, eh bien, il nous laisse des textes qui, encore aujourd'hui, nous encouragent. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend pour nous-mêmes ? Eh bien, c'est que la puissance de Dieu qui agit en Paul, elle ne dépend pas des circonstances qui sont autour de lui, ou des difficultés qu'il rencontre, ou de l'amplitude des voyages qu'il peut faire. Mais elle se manifeste malgré les circonstances, malgré les quelques mètres carrés dans lesquels il a le droit de se promener. Et c'est extrêmement encourageant pour nous de savoir que la puissance de Dieu peut se manifester en nous, quelles que soient nos circonstances. Paul va jusqu'à dire qu'il a appris à être satisfait de sa situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance, partout et en toutes circonstances. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pour ça que Hudson Taylor va jusqu'à dire que le service pour Dieu, fait selon la volonté de Dieu, ne manquera jamais du soutien de Dieu. Tous tes besoins financiers, santé, foi, paix, force peuvent être pourvus par la puissance de Dieu, si c'est pour faire sa volonté. Et John Piper va plus loin en disant qu'il prie pour que les chrétiens voient et expérimentent de nouvelles possibilités pour leur vie. Plus de foi, plus de joie, plus de paix, plus d'amour. Et tout l'argent dont ils ont besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Et il précise, c'est-à-dire peut-être 0 €. La puissance de Dieu peut s'exprimer à travers nous selon ce que Dieu veut faire à travers nous et selon les besoins qu'il veut remplir à travers nous. En juillet de cette année, voilà, il y avait la canicule, comme vous le savez, et en fait, ça m'a complètement éreinté. J'ai jamais été aussi mal dans ma peau de ma vie. On est parti en vacances la dernière semaine de juillet, et on s'est retrouvé au bord de l'océan. Et tellement j'étais fatigué de cette canicule, même en arrivant là-bas, je me sentais épuisé physiquement et moralement. Et j'étais tellement au bout du rouleau que j'avais des idées noires, j'avais des idées sombres, dans ma vie rien n'allait, j'étais nul, je servais à rien, et plus ma femme essayait de me remonter le moral et plus j'avais envie de me mettre dans mon coin et de parler à personne, et je me suis fait peur à moi-même. Et je vous avoue que si j'étais toujours dans l'état où j'étais fin juillet, je ne serais pas là devant vous ce matin. Et puis, je me disais, allez, il faut que tu parles avec le Seigneur, il faut qu'il t'encourage, qu'il te renouvelle, et je n'arrivais pas à parler avec le Seigneur. Et j'ouvrais ma Bible, et je lisais un passage, et ça ne me parlait pas, et j'arrivais pas à méditer sur ces passages, et c'était insupportable. Et en fait, le premier jour où on était sur place, on a voulu aller au bord de l'océan. Donc on prend la voiture, tout content, enfin un peu de fraîcheur, la belle vue, etc. Et puis au bout d'une heure et demie de voiture, nous avons réussi à franchir les 20 km qui nous séparaient de la plage. En fait, on était sur l'axe Bordeaux-Océan, et tous les Bordelais, le dimanche, avaient choisi d'aller au bord de l'océan. Et ça m'a achevé. Du coup, je me suis couché sur la plage et je me suis dit, je veux dormir, pas mourir, mais dormir. Et là, je m'endors, enfin, je commence à m'endormir et voilà que une famille vient se mettre à côté de nous avec des petits-enfants. Et on est reparti en fin d'après-midi et je n'avais pas dormi. Et du coup, on est allé louer des vélos et le lendemain, on est allé en vélo à la plage. Et le lendemain, c'était de nouveau la déprime, j'étais au bout de ma vie, c'était terrible. Et en fait, tout d'un coup, en roulant en vélo, ça, des fois, faire d'effort physique, ça fait descendre les idées ailleurs. Et je me suis dit, bon, je vais entamer une thérapie de choc, je vais arrêter de lire ma Bible comme je le fais d'habitude, etc. Il faut que je change de routine. Je vais lire un seul psaume, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et du coup, je me suis mis à lire le psaume 8. Et j'ai lu le psaume 8 et je me suis récité dans la tête. Et en fait, au bout de 3 jours, le psaume 8 a commencé à faire effet dans mon cœur. Et tout d'un coup, il s'est passé comme une sorte de bouchon qui sautait dans mon tunnel et dans ma noircitude. Et j'ai pu m'exprimer comme le psalmiste. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. Et là, j'ai eu comme des écailles qui sont tombées de mes yeux, et j'ai pu tout d'un coup apprécier l'océan face auquel j'étais, les enfants qui criaient sur moi au bord de la plage, les bouchons dans lesquels je pouvais me retrouver. En fait, j'avais besoin de recharger les batteries, j'avais besoin d'une source d'énergie extérieure supplémentaire à moi. Et finalement, ce que Paul nous dit, c'est ça ici. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pas quelque chose qui est à venir, c'est pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui est présent. Si tu as fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, Christ est en toi et il est l'espérance de la gloire. Ce qui veut dire que même si tes émotions te disent tout le contraire, Même si tes émotions te disent que ta vie est nulle et que de toute façon tu es en prison ou tu as des circonstances telles que qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que je peux vous parler de ceci? C'est un mixeur dont je suis très fier parce que c'est un mixeur Bamix, made in Switzerland, qui est un mixeur authentique d'époque qui appartenait à mon grand-père. Et puis il en a acheté un plus moderne, du coup, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est bien celui-là. Et du coup, il me l'a donné. Il marche encore. Alors, est-ce que je peux vous... Si vous me permettez l'expression, nous sommes tous des mixeurs. Vous vous identifiez avec un mixeur. Ça marche? Mon grand-père m'a pas seulement donné ce mixeur, mon grand-père a participé à la construction de ce barrage. Ce barrage est une prouesse technique qui est comparable à ce qui a été fait aux Trois Gorges en Chine ou au lac Powell aux États-Unis. Ce barrage se situe à 2300 mètres d'altitude. Il fait 15 mètres de large, 235 mètres de hauteur. Il a fallu 11 ans pour le construire et mon grand-père est très fier d'y avoir participé. Et moi, je suis très fier que mon grand-père y ait participé. Et puis d'ailleurs, si jamais vous voulez aller en moto là-haut, c'est possible, il y a une route. Je dis ça entre parenthèses. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, on peut y voir une métaphore de ce que Dieu fait dans nos vies. Ce barrage immense, extrêmement puissant, peut représenter Dieu. Ce barrage retient de l'eau qui peut représenter le Saint-Esprit. Mais pour que cette eau retenue par le barrage soit transformée en électricité qui serve à alimenter le mixeur, il faut une turbine et un alternateur. Une turbine, c'est tout simplement une grosse hélice dans laquelle l'eau coule, qui tourne très vite et qui va pouvoir, grâce à l'alternateur, produire de l'électricité. Et cette turbine et cet alternateur représentent Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, grâce à sa mort sur la croix, mais grâce aussi à sa résurrection, eh bien, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit est devenue disponible. Et Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, est venu habiter dans notre cœur. Et ce qui est formidable, c'est que nous, petits mixeurs, misérables, eh bien, nous avons une source d'énergie extérieure qui peut nous soutenir et nous supporter pour aller de l'avant. C'est ça, Christ, en nous, l'espérance de la gloire. Et Paul, qui est dans sa prison, nous dit, au verset 24, qu'il se réjouit. Il nous dit, au chapitre 2, verset 5, qu'il voit avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de la foi des Colossiens. Et ça, c'est que parce que par la puissance de Christ que c'est possible de le vivre. Et si Paul l'a vécu, c'est que nous pouvons aussi le vivre. On a vu ensemble ce que signifie que de devenir adulte dans notre foi. Et la prochaine fois, on va revenir en arrière, puisque dans la suite du chapitre 2, Paul nous propose d'apprendre à marcher.